Le message que vous allez écouter a été prêché à l'origine par John MacArthur de Grace Community Church, qui se trouve au sud de la Californie. John est pasteur, auteur, président du Master College and Seminary. Il est également le prédicateur principal de Une Grâce pour vous, un ministère d'enseignement biblique par les médias diffusé dans le monde entier. Ce message, traduit en français, vous est présenté par Une Grâce pour vous et ses partenaires. Après cet enseignement, nous vous communiquerons les informations qui vous permettront de vous connecter sur le site Une Grâce pour vous. Maintenant, écoutez l'enseignement de John MacArthur qui vous expliquera la vérité de Dieu au travers des versets bibliques.
Nous étudions des thèmes doctrinaux depuis plusieurs mois les dimanches soirs. Il s'agit de sujets que la Bible aborde, les choses dont Dieu a parlé et qui sont cruciales pour notre foi et notre vie. À partir de ce soir et pour les quelques semaines à venir, nous allons examiner l'inspiration et l'autorité des Écritures. Nous ouvrons la parole de Dieu chaque fois que nous nous rassemblons le jour du Seigneur, dans les classes qui ont lieu sur le campus de l'Église, aussi bien le dimanche matin que le dimanche soir, comme au cours des classes qui se tiennent tout au long de la semaine et dans les études bibliques qui ont lieu dans les communautés tout autour. Quand vous vous retrouvez en petits groupes, la parole de Dieu est ouverte dans vos maisons. Plusieurs d'entre vous lisent régulièrement la parole de Dieu, jour après jour. La parole de Dieu est le thème de nos conversations et c'est, selon nous, le sentier, puisque les Écritures elles-mêmes déclarent que la parole est le chemin. La parole de Dieu est une lampe, mais elle est également un sentier. Nous croyons en la parole de Dieu. Nous croyons qu'elle est inspirée. Nous croyons que les documents d'origine de la Bible sont exempts de toute erreur et que Dieu les a protégés et préservés jusqu'à ce jour pour lui permettre de rester fidèle à sa révélation d'origine. Nous croyons qu'il nous est commandé d'écouter quand la parole parle. C'est pour cela que la Bible est au cœur de tout ce que nous faisons. Nous définissons la vie et le ministère en termes bibliques. Elle est ce que nous croyons. Elle forge nos attitudes, nos comportements. Et elle est le message que nous proclamons. La Bible revendique d'être la parole même de Dieu et le fait de manière claire et sans équivoque. Les écrivains de l'Ancien Testament, par exemple, se réfèrent à leurs écrits comme aux paroles véritables de Dieu plus de 3800 fois. Les auteurs du Nouveau Testament citent l'Ancien Testament comme la parole de Dieu 320 fois et y font allusion au moins 1000 fois. Et les écrivains du Nouveau Testament déclarent à plusieurs reprises avoir reçu l'inspiration divine tout comme ceux de l'Ancien Testament. Jésus lui-même a revendiqué l'inspiration divine aussi bien de l'Ancien Testament que du Nouveau Testament. Il y a dans le Nouveau Testament quelques affirmations déterminantes qui définissent pour nous la nature de l'inspiration. Écoutez 2 Pierre chapitre 1 au verset 20. « Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Les Écritures ont été rédigées par des hommes qui n'ont pas écrit selon leur initiative ou par leur volonté humaine, ni par une quelconque interprétation personnelle, mais plutôt, ils ont été poussés par le Saint-Esprit à mettre par écrit les paroles que Dieu avait prononcées. Un passage très familier des Écritures qui aborde cette question se trouve dans la seconde lettre de Paul à Timothée. Au chapitre 3, au verset 16, il est écrit « Toute Écriture est inspirée de Dieu », littéralement « théopneustos », insufflé par Dieu. Elle émane de Dieu. Elle est utile pour renseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu, et cette inspiration signifie que la parole vient au travers des écrivains qui sont poussés par l'Esprit pour écrire ce que Dieu leur a dit et non ce qu'ils ont envie de dire. C'est la parole même de Dieu. Ces deux textes sont cruciaux. Il en existe bien sûr d'autres et nous en examinerons quelques-uns au fil des semaines. Maintenant, bien évidemment, tout ce dont nous avons besoin de savoir sur Dieu, sur nous-mêmes et sur le salut, sur le futur, Les temps et l'éternité se trouvent dans les Écritures. Tout est là. Tout ce que Dieu veut que nous sachions s'y trouve. C'est pour cela qu'à la fin du dernier livre, le livre d'Apocalypse, l'Esprit de Dieu a incité Jean à écrire qu'il ne faut ni ajouter, ni enlever quoi que ce soit à ce livre. C'est consommé, c'est complet. Jude dit même qu'elle a été transmise aux saints une fois pour toutes. C'est un ensemble de vérités qui a été délivré à un moment donné et qui ne doit être ni diminué, ni enjolivé. Tout ce que nous avons besoin de savoir se trouve ici dans ce livre. Notre compréhension de l'univers et de Dieu, notre relation avec lui, ainsi que toutes les autres relations. Parce que tout ce dont nous avons besoin se trouve dans les Écritures, que nous sommes sauvés par la parole de vérité, que nous sommes sanctifiés par la vérité, la parole de Dieu, que nous trouvons notre espérance de la gloire dans la parole, que toutes les instructions relatives à la vie s'y trouvent. La Bible devient la cible des attaques constantes, incessantes et implacables de nos ennemis. Et cela ne devrait pas du tout nous surprendre. Entrons dans Genèse au chapitre 3 et commençons tout au début. Genèse chapitre 3. Je voudrais juste que nous regardions brièvement aux 5 premiers versets de cet important chapitre. Les chapitres 1 et 2 décrivent la création, Adam et Ève vivant dans un monde merveilleux, dans un environnement exempt de péché, en parfaite communion et harmonie avec Dieu. La fin du chapitre 2 résume tout. L'homme et la femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. La honte n'existait pas, parce que le péché n'existait pas. Tout change au chapitre 3, et j'aimerais vous faire voir la nature de ce changement. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. » Bien entendu, vous connaissez la suite de l'histoire. Elle a cru Satan, a mangé et est tombée, entraînant la race humaine tout entière dans sa chute et attachant l'univers tout entier par ce seul acte. Satan est un menteur. Il est le père des mensonges, déclarait Jésus dans Jean 8, 44. Et dans ce passage, il accomplit sa première grande tromperie, et il l'a réussi très bien. Regardons en arrière au verset 1 un instant. Le serpent, Satan sous la forme d'un reptile, va vers la femme et lui dit « Dieu a-t-il réellement dit ?» « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Et bien sûr, nous savons que Dieu, en fait, avait juste dit qu'il ne devait pas manger du fruit d'un arbre particulier du jardin. Au chapitre 2 et au verset 16, il est écrit « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Satan arrive donc auprès de la femme et dit « Au fait, Dieu a-t-il réellement dit ?» Et vous pourriez vous demander « Mais pourquoi se rend-il auprès de la femme plutôt que d'aller voir Adam ?» Eh bien, 1 Pierre, chapitre 3, verset 7, nous donne peut-être la réponse. « Les femmes sont plus fragiles, et leurs maris sont leurs protecteurs auxquels elles sont soumises et sous la protection desquels elles trouvent de la sécurité. » Satan la trouve donc à un moment où elle est vulnérable et sans protection. Et sa stratégie est progressivement très très trompeuse. Cela commence avec ce qui semble être une question plutôt inoffensive. Au fait, Dieu a-t-il réellement dit ? C'est la toute première question qui apparaît dans la Bible. La première question de la Bible, la première question de l'histoire humaine. Jusqu'à ce moment-là, il n'y avait aucune question, que des réponses. Il n'y avait aucun mystère, il n'y avait aucun dilemme avant celui-ci. Et cette question est conçue par Satan pour mettre Ève sur le chemin qui légitimera son questionnement des affirmations divines. Et c'est de cela dont il est question ici, la conduite. Et avec elle, son mari, à questionner, à remettre en question la véracité des dires de Dieu. C'est exactement ce qu'il fait. Vous pouvez traduire cela en hébreu. Ainsi, Dieu a dit, n'est-ce pas ? Et pour la toute première fois depuis la création, la force spirituelle la plus mortelle jamais apparue dans ce monde a été libérée. Elle a secrètement et presque innocemment fait son entrée frauduleuse sur la surface de la terre. Et c'est cette force mortelle que vous, en tant que créature, avez le droit de faire asseoir en jugement sur la base de ce que Dieu a dit. Il conduit Ève à remettre en question ce que Dieu avait dit. Et Satan a répété ce que Dieu avait dit. « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. » Il transforme cela et il passe du positif au négatif, laissant de côté la partie qui disait qu'il pouvait manger de tout le reste, tordant, pervertissant, inversant, mettant l'emphase sur ce qu'on ne doit pas faire, plutôt que de souligner toutes les autres choses qu'on peut faire. Et de cette manière, il soulève le problème de l'interdit. Et la véritable question qu'il relève dans son esprit est « Pourquoi, bon sang, est-ce que Dieu veut vous imposer des restrictions ?» Et c'est cela le principal assaut. Le problème est « Vous avez le droit d'appeler Dieu à la barre et de lui demander pourquoi il dit des choses qui vous restreignent. » Il s'agit d'une affirmation négative, c'est une interdiction. Ceci est restrictif, étroit et limitatif. Et l'implication est « Pourquoi est-ce que Dieu, s'il est complètement bon, ferait cela ?» Il y a quelque chose dans le caractère de Dieu, d'après l'implication, qui lui donne envie de fixer des limites à votre libre arbitre, qui lui fait vouloir restreindre votre plaisir, votre joie, votre satisfaction, votre épanouissement, oui, votre liberté. D'une certaine manière, Dieu est en train de trafiquer vos droits. Il est en train de supprimer certaines des alternatives que vous avez, ce qui soulève la question du pourquoi il ferait cela. Qu'est-ce qui le pousserait à agir ainsi? Serait-il cruel? Il se pourrait bien qu'il y ait quelques défauts dans son caractère pour le pousser à vous imposer ses restrictions. Il vaut mieux ne pas lui accorder une totale confiance. C'est ainsi que Satan met dans son esprit l'idée que l'unique interdiction, qui en fait constituait un moyen pour eux de démontrer l'obéissance, soit à présent devenue, dans la pensée d'Ève, l'évidence d'un défaut dans le caractère de Dieu. Le diable a ainsi semé le doute sur le caractère de Dieu, amenant Ève à juger ce que Dieu avait dit, comme si elle avait le droit de décider ce qui était bien ou mal, vrai ou faux. Elle venait d'être mise en condition pour se méfier des dires de Dieu. Elle répond très faiblement au verset 2. La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. » Elle aurait dû, à ce moment précis, adopter une position ferme sur ce qu'elle savait être vrai au sujet de Dieu. Elle connaissait Dieu. Elle savait que Dieu était vrai, qu'il ne disait que la vérité, et elle savait que Dieu était la bonté parfaite. Elle avait un commandement clair qui ne souffrait d'aucune ambiguïté. Elle aurait dû se méfier de toute personne qui aurait essayé de l'amener à remettre Dieu en cause. En réalité, elle aurait dû se méfier d'un serpent doté de la parole. Elle essaie quand même de défendre Dieu au verset 3. Mais, quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit « Vous n'en mangerez point ». Et elle ajoute ceci « Et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez ». La réponse est faible. Et je crois vraiment que c'est à ce niveau que la chute s'est produite, tout à fait là, avant même qu'elle n'ait mangé quoi que ce soit. À partir de l'instant où elle n'a pas complètement de tout son cœur et sans réserve, fait confiance à la parole de Dieu comme étant vraie, bonne et la source de notre plus grande joie, de notre épanouissement maximal, le manque de confiance en Dieu a pris pied. Le péché a fait son entrée dans son cœur et la chute s'est produite. Non seulement elle ne défend pas Dieu, mais elle en rajoute à ses dires pour le faire paraître plus dur en disant « Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point ». Dieu n'avait pas dit cela. Mais là, elle le conçoit comme une restriction futile. En fait, c'est si restrictif qu'elle le rend encore plus limitatif. Elle est à présent irritée de ce que Dieu lui a imposé une telle restriction. Dieu est jugé d'avoir donné un commandement inacceptable et non fiable. Et ce fut la chute, se méfier, manquer de faire confiance à ce que Dieu dit. Tout ce qui vient après cela constitue tout simplement une conséquence de la chute. Au verset 4. Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. » Satan fait son entrée parce qu'il sait où elle en est. Il sait qu'elle s'est méfiée de la parole de Dieu. Elle ne croit plus désormais que Dieu soit nécessairement fiable. Il y a un défaut dans son caractère. Il impose des restrictions inutiles, tandis qu'Ève devrait être libre. Par ailleurs, elle a le droit de se questionner sur les actes que Dieu a posés, et même d'en parler de manière plus restrictive et plus négative qu'ils ne sont réellement. Et Satan sait qu'elle est tombée. Alors, il va plus loin, pour l'amener à renier complètement la parole de Dieu en disant « Vous ne mourrez point. Dieu a menti, Dieu a menti. En réalité, Dieu ment et en voici la preuve. » Moi, je dis la vérité. C'est ce que Satan est en train de dire. Et il le dit encore aujourd'hui, bien qu'il soit l'apôtre du mensonge. « Vous n'allez pas mourir. Dieu n'est pas véridique. On ne peut pas se fier à sa parole comme étant révélée. Il n'a pas vos meilleurs intérêts à cœur. » Alors, elle a accepté le fait que Dieu puisse avoir un défaut de caractère, qu'il soit trompeur et futilement restrictif, et qu'il supprime la liberté et limite la joie. Et Satan dit, « Vous ne mourrez point, vous n'allez pas mourir. Libérez-vous de ces restrictions, faites ce que vous avez envie de faire, pas de restrictions, pas de jugements, pas de conséquences, soyez libres. Un Dieu qui agit de cette manière ne peut pas être un Dieu d'amour.
Un tel Dieu ne peut pas être bienveillant.
Un Dieu qui impose des restrictions est légaliste, non aimant. Je suis amour, dit Satan. Je vous octroie la liberté. Suivez-moi et faites tout ce que vous voulez. » Et ensuite, la question surgit naturellement dans la pensée d'Ève. Eh bien, pour quelle raison fait-il cela? Pourquoi nous empêche-t-il de faire cela? Et Satan a une réponse au verset 5. « Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Il ne veut pas que vous soyez comme lui. Il est jaloux, il est envieux, il est protecteur, il veut rester supérieur. Il ment parce qu'il déteste la rivalité. Où est-ce que Satan a pioché tout cela? Satan a tenté de rivaliser Dieu, n'est-ce pas? Et il a été chassé du ciel. Faites ce que vous voulez, soyez libre comme lui. Il fait comme bon lui semble et il est libre et aucune restriction ne lui est imposée. Il n'y a pas de raison qu'il y ait de restrictions pour vous. Et l'unique raison pour laquelle il vous impose des limites, c'est parce qu'il est la concurrence. C'est ainsi que le père du mensonge fait tomber l'humanité tout entière sous prétexte qu'on ne peut se fier à la parole de Dieu comme ayant été révélée. Elle est mensongère parce que Dieu est imparfait et son défaut, c'est la jalousie. C'est un réel contraste avec la confiance parfaite que Jésus a mis en la parole de Dieu. Une confiance parfaite à travers une souffrance et une privation terrible, une restriction de ses propres prérogatives divines dans son incarnation et particulièrement dans sa tentation, quand il dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Eh bien, sans prendre le temps de suivre tout le flot de cette attaque satanique, les Écritures révèlent l'histoire qui a commencé ce jour-là et se poursuit jusqu'au bout du livre d'Apocalypse. Et l'attaque se poursuit encore aujourd'hui. C'est une histoire d'attaque sur la parole de Dieu à travers une gamme infinie et implacable de faux prophètes, de faux enseignants, de menteurs, de faux apôtres, d'imposteurs, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et l'attaque se poursuit encore aujourd'hui. La bataille pour l'autorité biblique fait rage dans chaque génération, en tout lieu.
Il y a toujours la bataille pour la Bible.
Il existe toujours le besoin de se lever pour la défense de l'Écriture. Je pourrais définir ma propre vie comme étant la cible de ces combats. Si je m'amusais à détailler des décennies de ma vie et de mon ministère qui approchent les 40 ans. Au cours des 10 premières années, c'était la bataille sur l'infaillibilité et l'autorité de l'Écriture. Et pendant 10 ans, j'ai fait partie du conseil de l'inhérence conduit par le docteur Jim Boyce et constitué de 100 chercheurs. Nous avons travaillé dur, rédigeant et produisant du matériel pour défendre l'autorité et l'infaillibilité des Écritures. C'est de là qu'est sortie la déclaration de Chicago sur l'infaillibilité biblique, une déclaration monumentale pour l'Église sur le plan historique. Et une fois que nous avons traité les attaques frontales des critiques, le mouvement charismatique et le mouvement mystique se sont amenés et nous avons également dû y faire face. Les quelques années qui ont suivi, peut-être la 2e décennie de mon ministère, ce fut la bataille pour défendre la singularité des Écritures. Chacun,
et tout le monde avait en effet une nouvelle révélation, une nouvelle parole de sagesse et une nouvelle parole de connaissance. Et il y avait une prolifération de soi-disant paroles reçues de Dieu ou de Jésus. Les gens accumulaient toutes ces révélations, et nous étions bien décidés à défendre la singularité des Écritures contre ce type d'attaque. Les Écritures ont ensuite commencé à subir les attaques des psychologues et des pragmatiques qui voulaient mettre la Bible de côté et établir la nécessité de la sagesse humaine, à un moment ou à un autre, en vue de fixer des vérités auxquelles la Bible pouvait ajouter de la perspicacité spirituelle. Et plus récemment, un autre problème concernant la Bible a été l'attaque de sa clarté. Il était en effet dit qu'elle n'était pas accessible, qu'elle n'était pas compréhensible, qu'il n'était pas possible de l'interpréter avec exactitude, à moins de se montrer dogmatique. Nous avons fait face à un combat après l'autre, et ça a été un véritable champ de bataille. Ce sera toujours un champ de bataille, et cela devrait toujours être le cas, car, comme je l'ai dit au départ, tout ce dont nous avons besoin se trouve dans la parole de Dieu. Maintenant, permettez-moi de vous parler un instant. Ce soir, je vous donne en quelque sorte un cours sur les diverses choses qui s'en prennent aux Écritures et que vous avez besoin de connaître. Et nous voyons certaines de ces choses un peu comme des feux bienveillants. Elles viennent des personnes qui semblent être chrétiennes, et qui le sont effectivement, dans certains cas, mais qui sont trompées par leur compréhension des Écritures. En voici quelques illustrations. Il y a quelques années de cela, un article est paru dans le numéro du 10e anniversaire du magazine de la Réforme moderne. Ce magazine, qui pendant plusieurs années a soutenu Sola Scriptura par l'Écriture seule. Cependant, cet article particulier était intitulé « L'insuffisance de l'Écriture ». L'article était écrit par un certain Gordon, qui se trouve être un ministre de l'Église presbytérienne américaine, une dénomination sortie de l'Église presbytérienne des États-Unis d'Amérique parce qu'elle était devenue libérale et reniée l'Écriture. Et, dans cet article, il estimait que les Écritures n'étaient pas tout à fait suffisantes pour guider une vie comme la plupart des personnes réformées le pensaient. Il a plus spécifiquement donné comme argument que les informations qui nous sont fournies dans l'Écriture ne sont pas suffisantes pour nous indiquer comment avoir des mariages réussis. Il a relevé la question du mariage. Il dit ceci. Alors que l'Écriture nous enseigne que le mariage est un engagement à vie, elle n'est manifestement pas suffisante pour montrer aux gens comment atteindre ce but. Oh, bien sûr, l'Écriture contient quelques grands principes, tels que ceux rencontrés dans Éphésiens 5 ou dans les Proverbes 29. Mais pour ce qui est de tous les discours évangéliques sur les rôles des hommes et des femmes, ils n'ont de toute évidence jamais produit de mariage heureux ou réussi. Et il poursuit en disant ceci, c'est qu'il y a 10 ans, il a affirmé la pleine suffisance de l'Écriture en harmonie avec la position standard réformée à ce sujet. Aujourd'hui, il suggère que ceux qui ont rédigé le premier chapitre de la Confession de foi de Westminster auraient mieux présenté la chose s'ils avaient utilisé un langage un tout petit peu plus nuancé. La Confession de foi de Westminster atteste la suffisance de l'Écriture. Voici ce qu'elle dit. Tout le conseil de Dieu, c'est-à-dire tout ce qui est nécessaire à la gloire du Seigneur ainsi qu'au salut, à la foi et à la vie de l'homme, est expressément consigné dans l'Écriture ou doit en être déduit. C'est ça la confession de Westminster. Elle constitue la norme de la théologie réformée depuis des centaines d'années. Gordon affirme cependant toute la question aurait été mieux exprimée si les théologiens avaient élaboré une déclaration d'alliance plus évidente, indiquant que les Écritures sont un guide suffisant pour les diverses alliances que Dieu a conclues avec les diverses personnes d'alliance. En d'autres termes, il aurait préféré quelque chose de beaucoup plus vague. Nous ne devons pas faire de réclamation pour une suffisance spécifique de l'Écriture, mais devons en parler en grande et large catégorie. Il suggère plus particulièrement que l'expression « foi et vie » soit interprétée d'une manière étroite et religieuse. Autrement dit, l'expression ne se réfère pas tout à fait à la vie en dehors de la relation personnelle avec Dieu, c'est-à-dire la vie en lien avec toutes les autres personnes. Et vous pourriez vous demander ce qui a poussé une personne qui a adhéré au concept de « sola scriptura » et de la suffisance de l'Écriture à reculer à ce point. Qu'est-ce qui a pu changer son affirmation sans réserve que la Bible contient tout ce qu'il est nécessaire à la gloire du Seigneur ainsi qu'au salut, à la foi et à la vie de l'homme? Voici ce qu'il dit. Il a changé d'avis au sujet de la suffisance biblique quand il a vu un sondage indiquant que le taux de divorce au milieu des évangéliques était plus ou moins le même, ou même pire que le taux de divorce parmi les non-croyants. Il a donc changé son point de vue sur l'Écriture parce qu'il a vu un sondage. Il écrit « La grande question pratique qui a influencé ma réflexion sur la question de la suffisance de l'Écriture a été la publication des résultats, selon lesquels le taux de divorce évangélique est à peu près le même que celui de la population générale. Si nous nous demandons pourquoi les évangéliques divorcent à la même vitesse que ceux qui ne reconnaissent pas nécessairement la Bible comme source de conseil, la réponse doit être quelque chose de ce genre. Bien que l'Écriture nous enseigne que le mariage est un engagement à vie, elle n'est manifestement pas suffisante pour enseigner aux gens comment atteindre ce but. » Il poursuit en suggérant que croire en la suffisance de l'Écriture pourrait même nuire à la réussite des mariages évangéliques. Il dit, je le cite, « Je dirais qu'une partie de la raison pour laquelle nos amis incroyants réussissent aussi souvent dans le mariage comme nous le faisons est qu'ils ne se sont jamais trompés par un quelconque malentendu au sujet de la suffisance de l'Écriture. » Maintenant, de quel sondage parle-t-il ici qui l'aurait poussé à jeter sa théologie par-dessus bord? Eh bien, il s'agit d'une enquête menée en décembre de l'année 1999 avec une sortie de presse intitulée « Les chrétiens divorceraient plus souvent que les non-chrétiens ». Je me souviens, quand ce sondage est parvenu sur mon bureau, j'étais assez choqué. Il était dit que 27% de chrétiens nés de nouveau avaient divorcé contre 24% pour les non-chrétiens divorcés. Eh bien, ces statistiques ne prouvent rien. Étaient-ils divorcés avant de devenir chrétiens? L'enquête a également indiqué que le taux de divorce parmi les athées et les agnostiques est bien en dessous de la norme. Seulement 21% des athées et des agnostiques divorcés. Donc, 27% de chrétiens nés de nouveau et 21% d'athées et d'agnostiques. Et une question a immédiatement inondé mon esprit. Sur quels critères avez-vous déterminé qui est un chrétien né de nouveau ou non? Est-ce suffisant? Selon quels critères avez-vous identifié qui est un chrétien né de nouveau? Et plus je creusais dans ce sondage, plus il devenait évident qu'il n'y avait aucun moyen de déterminer que des personnes classées comme nées de nouveau allaient, ne serait-ce qu'à l'Église. Elles étaient considérées comme nées de nouveau sur la base de deux questions. Question 1. Avez-vous jamais pris un engagement personnel vis-à-vis de Jésus qui soit toujours important dans votre vie? Qu'est-ce que cela signifie? Avez-vous jamais pris un engagement personnel envers Jésus qui soit toujours important dans votre vie? Les catholiques peuvent l'affirmer. Les mormons peuvent répondre oui. Les témoins de Jéhovah peuvent l'attester. Tout genre de personne peut répondre oui à cette question. Il y avait aussi une question à choix multiples. Une des 7 réponses possibles était « Si je devais mourir, j'irai au ciel parce que j'ai confessé mes péchés et j'ai reçu Jésus-Christ comme sauveur. » Maintenant, en apparence, cela sonne plutôt bien. Les catholiques romains peuvent l'affirmer. Les mormons le peuvent. Toute espèce de secte peut le déclarer. Les gens qui ne comprennent pas le sens de la mort du Christ peuvent le dire. Rien n'est dit au sujet de la résurrection. Rien n'apparaît sur la nature du Christ, la nature de Dieu, la nature de l'expiation. S'ils répondaient de toute façon oui à la première question, indiquant qu'ils avaient pris un engagement personnel vis-à-vis de Jésus, et qu'ils cochaient la bonne case pour la question à choix multiples, ils étaient classés comme nés de nouveau. Cependant, nous vivons dans une culture où le discours de l'acceptation de Jésus-Christ comme sauveur personnel est devenu un cliché. Rien de ces deux questions ne peut garantir que la personne soit véritablement née de nouveau. En fait, si vous interrogez davantage les personnes nées de nouveau, 45% d'entre elles vous diraient que Satan n'est pas un être vivant, mais plutôt un symbole du mal. 34% croient que si on est suffisamment bon, on gagne une place au ciel. Voilà les personnes nées de nouveau et leurs standards. 28% sont d'accord que Jésus a commis des péchés comme tout le monde au cours de sa vie terrestre. 15% des chrétiens nés de nouveau affirment qu'après sa crucifixion et sa mort, Jésus n'est pas physiquement revenu à la vie. 26% croient que le courant religieux que l'on suit importe peu, puisqu'ils enseignent tous la même chose. Vous commencez donc avec une statistique qui dit que les chrétiens nés de nouveau divorcent plus souvent que les athées et les agnostiques. Et cela vous choque. jusqu'à ce que vous vous aperceviez que vous avez seulement affaire à des gens qui professent être chrétiens. Et aujourd'hui, dans notre pays, je crois que cela atteint pratiquement 80%, sinon plus. Et cela a poussé un homme à larguer complètement sa confiance dans la suffisance de l'Écriture. Ce sont des faits ou événements vraiment étranges, mais plutôt courants aujourd'hui. Des personnes qui abandonnent une doctrine historiquement vraie pour des raisons les plus fantaisistes. Et parce que nous avons perdu toute capacité de véritablement définir ce que c'est qu'être un vrai chrétien, vous pouvez quasiment douter de tous les sondages qui les identifient. Je parle là des vrais chrétiens. À présent, laissez-moi juste parler de quelques catégories. D'où viennent les attaques? Premièrement, elles proviennent des critiques. Il y a celles du côté philosophique qui s'en prennent encore et continuellement aux Écritures. Tout cela vient du libéralisme allemand, la théorie de la haute critique, Graf Wellhausen, liée à la reprise de la néo-orthodoxie barthienne. Elle a laissé un héritage qui a balayé les principales dénominations, balayé les facultés, universités et séminaires, et qui a tout simplement brisé et écrasé l'inspiration biblique. Nous y avons été confrontés. On y a fait face pendant des années et des années et des années. C'est un refus total de reconnaître l'origine divine, la véracité, l'inhérence, l'inspiration et l'autorité des Écritures. Et cela se poursuit encore aujourd'hui de la manière la plus bizarre et la plus stupide. Chaque fois que vous mettez votre téléviseur en marche et que vous verrez une quelconque étude de la Bible, vous entendrez ces critiques. The History Channel, une chaîne américaine, m'a contacté récemment me demandant si cela m'intéressait d'intervenir régulièrement en tant qu'expert et de contribuer fréquemment aux discussions sur la Bible. Je me suis dépêché de dire non, parce que je ne veux pas être taillé en petits morceaux et déchiqueté, édité et coincé entre toutes ces personnes qui renient les Écritures. Le groupe le plus connu, qui est toujours et constamment interrogé et interviewé chaque fois qu'il y a des discussions sur la Bible, est peut-être constitué de personnes appartenant à ce que l'on appelle le séminaire de Jésus. Avez-vous déjà entendu parler de cela, le séminaire de Jésus? Ils ont gagné du terrain dans les rubriques religieuses stupides des journaux, qui fournissent normalement une liste de lieux à éviter. Ces morts et ces aveugles autoproclamés sont plus de 200. Plus de 200 soi-disant érudits qui clament être sages. Ils sont stupides. Ils prétendent être des autorités théologiques sur Jésus et sur la Bible. Et ils prennent des décisions concernant la Bible sur la base d'une majorité de votes. Ils ont une curieuse manière de procéder. Ils choisissent une section donnée de la Bible et organisent un vote dessus. Chaque participant dépose une perle rouge dans une boîte à scrutin pour indiquer qu'il ou elle croit que le passage est probablement authentique. En d'autres termes, que l'extrait des Écritures est probablement vrai, les perles roses signifient une possibilité d'authenticité. Les perles grises sont utilisées pour dire qu'ils pensent que le passage avait été altéré par les disciples ou les premiers chrétiens. Les perles noires sont les plus puissantes. C'est un non-vote utilisé sur les passages qui sont considérés comme fabriqués de toutes pièces ou des paroles attribuées à une personne autre que celle que la Bible dit les avoir prononcées. Les résultats sont étonnants. Le groupe a décrété que 31 textes seulement sur plus de 700 déclarations qui sont attribuées à Jésus dans les évangiles sont tout à fait authentiques. Et 16 de ces 31 extraits sont des doublons des passages parallèles. Plus de la moitié des paroles de Jésus ont reçu la redoutable perle noire. En tout, le panel a totalement rejeté 80% de toutes les paroles que les Écritures attribuent à Jésus. Parmi les passages évincés, il y a Matthieu 5, verset 11. « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » Mais également Marc 10, 32 à 34, où Jésus annonce sa crucifixion. Ils ont rejeté toute la section apocalyptique, c'est-à-dire tout ce qui parle du futur. Ils ont rejeté tout ce qui se trouve dans l'Évangile selon Jean, sauf pour un verset, le verset 44 du chapitre 4, qui a reçu un vote rose. Et ce qu'il est dit, c'est qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Le fondateur du séminaire, Robert Funk, estime que la plupart des spécialistes de ligne de front approuveraient leur mise au rébut de l'Évangile selon Jean, car, dit-il, Jésus parle habituellement en adage, en euphorisme, en parabole ou en anecdote créée comme une rebuffade ou une réplique dans un contexte de dialogue ou de débat. Il est clair qu'il ne parlait pas en faisant de longs monologues tels qu'on en trouve dans l'Évangile de Jean. Et on pourrait tout simplement se demander par quel miracle il sait toutes ces choses. Ainsi, les épaves en décomposition du naufrage de la théologie libérale poursuivent leur progression vers le rivage. Et à propos, ce que je viens de vous citer est quelque chose que j'ai noté il y a quelque temps de cela. Et vous êtes sans ignorer que lorsque quelqu'un commence à se citer lui-même, c'est qu'il y a un problème. C'est aussi terrible que de prêcher un si bon sermon qu'on en vient à signer soi-même un autographe sur sa propre Bible. Ce que vous trouverez dans le séminaire de Jésus et ce que vous avez dans la théologie libérale, ce sont des manifestants radicaux sur les campus universitaires des années 60. Ils occupent actuellement des postes de cadre moyen et évoluent vers la haute direction du système universitaire. Leur credo idéologique est devenu le critère de l'orthodoxie dans la plupart des milieux universitaires. Les experts sont supposés avancer en rang organisé derrière eux, et quiconque s'avise de ne pas le faire peut tout simplement perdre son poste dans le département de la religion, de la philosophie ou de la sociologie de l'université. Ces libéraux ont des dogmes sacrés, l'égalité pour les femmes, l'homosexualité comme un autre style de vie, l'activisme environnemental, les droits des animaux, les quotas raciaux, la dure doctrine anti-guerre et ainsi de suite. Et ils censurent quiconque contexte un quelconque de ces dogmes, notamment Jésus, surtout Jésus. Il suffit de jeter un coup d'œil sur les décisions du panel pour comprendre leur véritable objectif. Les paraboles du bon samaritain, de l'intendant et de l'économe infidèle, de la graine de moutarde ou sénévé, des passages qui critiquent les riches, le commandement d'aimer ses ennemis et les versets qui traitent des disciples, qui exhortent les disciples à s'aimer les uns les autres, obtiennent des perles rouges. Chaque fois que vous aidez les pauvres, les opprimés et les humbles, ils sont d'accord. Les passages qui appellent à la repentance affirment la divinité de Jésus, exige beaucoup des disciples, parle du besoin de rédemption et de la nouvelle naissance, reçoivent littéralement le vote noir. Et ils sont loin d'avoir terminé. Ils vont poursuivre ce travail s'en prenant à la parole et répandant ces choses partout où ils peuvent trouver une oreille attentive. Ceci n'est qu'une illustration de cette attaque de la Bible qui vient des libéraux. Nous pourrions en dire davantage à ce sujet, mais avançons un peu plus. Nous pourrions parler de la nouvelle perspective au sujet de Paul qui s'en est pris à la compréhension que fait le Nouveau Testament de la doctrine de la justification. Nous pourrions parler de l'ouverture de Dieu qui s'attaque à la nature même de Dieu. Je dois peut-être dire un mot à ce sujet. Le théisme ouvert est l'idée selon laquelle Dieu serait ouvert au futur. Il n'a aucune idée de ce que l'avenir nous réserve. Il n'en a pas le moindre indice. Il est tout bonnement comme vous et moi. Il essaie de réagir à ce qui se passe et il n'a pas plus de préscience au sujet de quoi que ce soit vous et moi, tout simplement parce que cela ne s'est pas encore produit et il ne peut par conséquent pas en être informé. Il ignore ce qui va se produire jusqu'à ce que les gens fassent leur choix. Il ignore ses choix et il réagit un peu comme un joueur d'échecs très très habile qui ferait de son mieux pour accomplir sa volonté en réaction à nos mouvements à tous. Ceci est un point de vue très, très populaire, très répandu, un point de vue qui ne cesse de se développer. Il est entré dans le milieu évangélique, société de théologie évangélique, qui, jusqu'ici, a été réticente à exclure les personnes qui partagent ce point de vue. Il attaque la nature même de Dieu, il s'en prend à la divinité de Dieu. Dieu n'est pas le Dieu qu'il prétend être. Il ne dit pas la vérité à son compte quand il déclare qu'il connaît la fin depuis le commencement. Par conséquent, Dieu est menteur, et c'est l'exacte réplique de ce que nous avons vu au Jardin d'Éden. Chacune des attaques opérées par ces critiques qui renient une quelconque portion des Écritures est un combat qui doit être livré, et un point au niveau duquel nous devons défendre l'autorité de l'Écriture. Mais les attaques ne viennent pas seulement des critiques. Il y a aussi des agressions des sectes. Mais je ne vais pas m'étendre à ce sujet. Les Mormons, les Témoins de Jéhovah, la science chrétienne, la théosophie, l'unitarianisme, en allant tout en bas jusqu'à la plus petite secte bizarre et étrange. Ces gens qui n'acceptent pas la parole de Dieu et son exacte interprétation, mais qui veulent ajouter à la parole de Dieu les écrits de quelques personnes, quelques anges, que ce soit Joseph Smith ou Mary Baker, Eddie Patterson, Glover Fry. Elle avait un problème de mari, évidemment, dans la science chrétienne, ou qu'il s'agisse de Judge Rutherford, ou Annie Besant, ou qui que ce soit d'autre qui ait contribué à ces sectes et doctrines. Ils s'attaquent sans répit à la parole de Dieu avec ces documents qui tordent et pervertissent les Écritures et qui ont pour auteur Satan en personne. Il y a des attaques, je dirais, des charismatiques. Et je le dis, conscient qu'il s'agit d'une chose difficile à entendre pour certains d'entre vous. Mais quand vous déclarez que la Bible n'est pas la fin de la révélation, que ce n'est pas tout ce que Dieu a dit, qu'il dit davantage, qu'il donne de nouvelles révélations, de nouvelles visions et de nouvelles voix, se font entendre des cieux, des voyages au ciel, des voyages en enfer, des interprétations d'intuitions mystiques et hyper subjectives, des interprétations secrètes, mystiques, vous vous attaquez aux Écritures, vous vous en prenez aux Écritures. Il est si crucial pour nous de comprendre que nous n'avons pas plus de révélation de Dieu que ce qui est écrit dans les Écritures. Aucune révélation de plus que ce qui se trouve dans les Écritures. Vous entendez même les gens parler aujourd'hui d'entendre la voix de Dieu. Écoutez et Dieu vous parlera. Exercez-vous à entendre la voix de Dieu. Cette pratique n'est pas seulement ridicule, mais elle est également dangereuse. Si vous voulez entendre la voix de Dieu, ouvrez la Bible et lisez ce que Dieu a dit. Il existe une quatrième attaque que je voudrais mentionner à votre attention, juste pour vous donner une petite idée du paysage. L'attaque qui émane de la culture, des critiques, des sectes, des charismatiques, donc de la culture. Nous vivons à une époque où la culture dicte à l'Église ce que la Bible est autorisée à dire. Une grande illustration de cet état des faits est la publication de la TNIV, Today's New International Version. La société de publication Zondervan publie une Bible appelée la TNIV. La TNIV se distingue par sa déférence au mouvement féministe. Elle a altéré la parole de Dieu, changé la parole de Dieu pour l'accommoder au mouvement contemporain féministe et égalitariste. Et ce n'est pas la seule à l'avoir fait. D'autres l'ont également fait. La parole de Dieu ne devrait jamais être utilisée de cette manière pour s'harmoniser à une perception culturelle. Vous ne pouvez pas prendre la parole de Dieu, tordre la parole de Dieu, altérer la parole de Dieu, changer la parole de Dieu, embellir la parole de Dieu, diminuer la parole de Dieu, afin de produire quelque chose qui s'accommode aux attentes culturelles. Et pourtant, cela est en train de se faire à la racine même, quand c'est fait avec la traduction de la Bible. Quand on traduit la Bible, on a une responsabilité. Vous prenez la parole dans la langue hébraïque d'origine ou en araméen, pour certains passages de l'Ancien Testament, où l'araméen apparaît. Vous prenez la parole en grec dans le Nouveau Testament et vous la traduisez. Vous trouvez la traduction la plus proche possible dans la langue de traduction de la Bible, et c'est ce que vous faites. Vous ne changez pas la parole parce que vous pensez que la culture préférerait que les choses soient dites d'une autre manière. Il ne s'agit pas là d'une traduction pure et vraie. N'adaptez surtout pas la Bible aux attitudes culturelles de péché, aux attentes, aux exigences. C'est ce qu'il y a de pire. Nous ne pouvons donc pas laisser la culture décider de la manière dont nous traduisons la Bible ou comment nous interprétons la Bible. Je lisais un livre écrit par un des gars de l'Église émergente qui a posé la question « Acceptez-vous les homosexuels dans votre Église ? Permettez-vous aux homosexuels de devenir membres de votre Église ?» Et sa réponse était « Oui, bien sûr, nous avons également des personnes en surpoids et celles qui aiment le chocolat. Vous prenez donc l'homosexualité et vous la mettez au même pied d'égalité que le fait d'être en surpoids ou d'aimer le chocolat, parce que vous voulez redéfinir l'Église et la Bible en des termes acceptables par la culture. » Il y a donc toujours cette tentative de tordre, de subvertir, d'altérer ou de modifier les Écritures du fait que la culture nous impose certaines exigences. Et dans ce même ordre d'idées, J'aimerais juste mentionner à votre attention quelque chose que j'ai parcouru avec les hommes du séminaire. Et j'en ai également parlé aux jeunes de l'université l'année dernière, et c'est ceci. Dans le nouveau mouvement de l'Église émergente, la tendance consiste à dire que la Bible n'est pas claire, ce qui arrange vraiment la culture. Ma foi, c'est un lieu d'atterrissage vraiment confortable. Eh bien, nous croyons en la Bible. Nous aimons la Bible, mais franchement, elle n'est pas claire. C'est un peu difficile de comprendre ce qu'elle veut dire en affirmant certaines choses. Nous ne pouvons pas vraiment accepter les choses comme des dogmes. Nous ne pouvons pas tout à fait être certains d'interpréter les choses comme il faut. C'est un livre si ancien. Il y a tout genre d'interprétations possibles. Nous ne pourrions jamais être sûrs d'avoir la bonne, comme l'a dit Brian McLaren. Personne n'a encore la bonne réponse. Je ne l'ai pas non plus, et ne laissons personne nous faire croire qu'il l'a. C'est le compromis culturel le plus convenable qui soit. On peut dire, eh bien la Bible est vraie, et Dieu nous a donné la Bible, mais nous n'avons pas vraiment encore compris ce qu'elle veut dire. Vous avez donc des gens qui disent ce genre de choses. Voici un autre évangélique plutôt connu qui a changé de point de vue et déclare « La certitude est souvent idolâtre. J'ai été contraint de renoncer à la certitude. Si la doctrine chrétienne a une fondation, elle ne se trouve guère dans les Écritures. La théologie doit être une humble tentative humaine à entendre Dieu et jamais des approches rationnelles au texte. Vous ne pouvez pas aborder un texte en vous servant de votre intellect et espérer trouver la vérité. Vous devez vous montrer un peu plus humble que ça. La théologie est une humble tentative humaine. Vous ne pouvez pas trouver la fondation de la théologie chrétienne dans l'Écriture. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas compréhensible. Brian McLaren dit « La clarté est parfois surévaluée ». Leslie Newbegin déclare « L'Évangile n'est pas une question de certitude ». Vous avez des auteurs qui vont dans le même sens, comme N.T. Wright, en Angleterre, qui a écrit un grand nombre d'ouvrages sur la Bible, ressortant fondamentalement de nouvelles manières de tout comprendre, un peu comme si personne jusque-là n'avait encore rien compris. Ceci a poussé quelqu'un à se demander, « Eh bien, si tout le monde se trompe et à travers l'histoire ils n'ont cessé de se tromper, pourquoi auriez-vous raison, vous ?» Ce qui vient à nouveau alimenter la mentalité selon laquelle nous ne parviendrons jamais à comprendre comme il faut. Et quand vous pensez à la parole de Dieu, vous devez comprendre que la Bible prêche la clarté. La clarté. Laissez-moi vous donner quelques pensées à ce sujet, tandis que nous concluons. Romains 1. Si le pécheur est tenu responsable à cause de la révélation de Dieu à travers la création, et la révélation de Dieu et la loi qui sont écrites dans son cœur et sa conscience. Il est donc inexcusable. Voici ce que cela veut dire. Si le pécheur est tenu responsable devant Dieu, répréhensible devant Dieu, coupable devant Dieu, pour avoir rejeté cette révélation qui est manifeste dans la création et la conscience, s'il est à ce point sans excuse, alors croyez-moi, il est inexcusable quand il rejette cette révélation que Dieu a mise par écrit dans sa parole. Le pécheur est responsable. L'Écriture est claire. L'Écriture est nécessairement simple parce que Dieu, son auteur, le Créateur, le Rédempteur et le Juge parlent clairement. Sinon, il ne pourrait pas accomplir sa rédemption. S'il ne parlait pas clairement, les gens ne sauraient pas ce qu'ils doivent croire ni comment ils sont supposés répondre. S'ils ne parlent pas avec clarté, ils ne peuvent pas savoir au sujet du salut. Ils ne peuvent pas savoir au sujet du jugement à venir. Ils ne peuvent rien savoir sur le ciel et l'enfer. Ils ne peuvent rien savoir au sujet du péché et de la justice. Cependant, ils doivent savoir et sont tenus de savoir. L'Écriture livre sa signification à la raison ordinaire et au sens littéral. Il n'y a pas de signification secrète cachée ni de mystère implicite. Elle est appelée lumière partout. Elle est même une lumière pour ceux qui la rejettent. Jean 3. Ils haïssent la lumière et ne viennent pas à la lumière parce qu'elle est la lumière. L'Écriture est claire, non seulement parce qu'elle est manifestement claire en elle-même et d'elle-même, et claire pour celui qui a un esprit raisonnable parce que l'Esprit de Dieu l'illumine. Et par la grâce, l'Esprit rend ce qui est incompréhensible, compréhensible pour celui sur qui l'Esprit agit. Pour vous donner une illustration de la clarté de l'Écriture, je vais seulement dire ceci. Les écrits de l'Ancien Testament, qui semblent un peu flous à certaines personnes, sont en fait si clairs que Dieu tient les gens responsables et les a toujours tenus responsables par rapport à ce qui a été révélé dans l'Ancien Testament. Jésus lui-même n'a, par exemple, jamais, au grand jamais, au cours de son enseignement, pendant ses conversations, dans ses dialogues, ses conflits et ses débats, dit aux Juifs « Je comprends votre confusion. L'Ancien Testament est vraiment dur, très difficile et assez souvent flou. Il ne l'a jamais dit. Jamais. » Il s'adresse aux gens du premier siècle. Ils sont à 1000 ans de David, ils se situent à 1500 ans de Moïse et ils suivent Abraham de 2000 ans. Et Jésus continue d'estimer qu'ils sont à même de lire et d'interpréter convenablement l'écriture de l'Ancien Testament. Si la compréhension des Écritures avait été inaccessible pour les gens qui en étaient éloignés de 1000 ou 2000 ans, comme on nous le dit, à nous aujourd'hui, à nous qui sommes à plus de 2000 ans de la rédaction du Nouveau Testament, alors nous nous serions attendus à ce que Jésus dise quelque chose comme « Je vois d'où vient votre problème ». Mais il ne l'a jamais dit. Et qu'il s'adresse aux érudits, aux pharisiens, aux scribes ou aux personnes ordinaires, il a toujours estimé qu'ils étaient responsables de leur mauvaise compréhension d'un quelconque enseignement des Écritures. Il dit à maintes reprises « N'avez-vous pas entendu ? N'avez-vous jamais lu ce que dit l'Écriture ?» Il leur dit « Vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Votre problème, c'est que vous ne sondez pas les Écritures. Ce sont elles qui parlent de moi. Iriez-vous, vous aussi, jusqu'à dire cela ? Ces paroles sont destinées aux païens non initiés. Paul, écrivant aux Corinthiens, déclare dans 1 Corinthiens 10 « Les Écritures de l'Ancien Testament ont été données pour notre instruction, même en tant que païens. » Et tandis que le Seigneur était sur la route d'Emmaüs dans Luc 24, il a ouvert l'Ancien Testament, la loi des prophètes et les Écritures saintes. Et il leur a expliqué les choses qui le concernaient, qu'ils auraient dû comprendre avant. Et pensez donc aux épîtres du Nouveau Testament. Vous dites, « Eh bien, le Nouveau Testament est vraiment dur. Est-ce le cas ?» Les épîtres du Nouveau Testament n'ont pas été écrites à l'intention des théologiens. Elles ne s'adressaient pas aux leaders d'Église. Elles n'étaient pas destinées aux érudits. Elles ont été adressées aux congrégations, à l'Église de Dieu à Corinthe, aux églises de la Galatie, à tous les saints en Jésus-Christ, à Philippe, et ainsi de suite. Toujours aux églises, au plus petit dénominateur commun, à la personne qui était nouvellement convertie à Christ. Et Paul, de même que Pierre, Jacques, Jean et Jude, estime que ses auditeurs comprendront exactement ce qu'il écrit. Par exemple, dans Colossiens 4, au chapitre 16, Paul dit « Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit également lue dans l'église de Laodicée. Publiez les lettres et lisez-les toutes dans chaque église. » Vous devez donc comprendre que les chrétiens du premier siècle étaient responsables de leur compréhension des Écritures. Les chrétiens d'origine païenne du premier siècle était responsable de la compréhension du Nouveau Testament sur la base des écrits de l'Ancien Testament. Les épîtres du Nouveau Testament ont été adressés aux églises, majoritairement constituées de païens convertis et sans connaissance fondamentale de l'Ancien Testament, ceux qui étaient sortis directement du paganisme et n'avaient aucune connaissance préalable de l'Ancien Testament. Et il leur revenait la responsabilité de comprendre et d'obéir. Les Écritures seront toujours combattues, sans relâche, sous tous les angles, que cela vienne des critiques, des membres des sectes ou des charismatiques qui souhaitent y ajouter des choses, ou que cela vienne de la culture. Je pourrais même présenter des attaques fantaisistes, ridicules et idiotes contre l'Écriture, comme les codes bibliques. Je participais une fois à un programme radio et quelqu'un a dit « Que pensez-vous des codes de la Bible ?» Et j'ai dit « Eh bien, je vais vous dire ce que je pense des codes de la Bible. Je pense que vous devriez faire attention quand vous déclarez que Dieu a dit une chose qu'il n'a pas dite parce que Dieu condamne les faux docteurs pour ce genre de choses. Ce que Dieu a dit est clairement indiqué dans la Bible. Cependant, trouver un acrostiche dans un ordinateur et penser que ce que Dieu a dit est écrit en diagonale en allant vers le haut de ce côté et à mi-chemin vers le bas de l'autre côté, et que ce que Dieu signifiait en réalité, c'était que Gandhi mourrait au mois d'octobre de l'année 1984, et très loin de la révélation divine. De toute évidence, les gens arrivent à trouver les mêmes choses dans Moby Dick. Finalement, il y a constamment des attaques de la sagesse charnelle contre la Bible. Les gens regardent la Bible et disent « Eh bien, ce n'est pas raisonnable. Je n'aime pas la doctrine de l'élection. Je n'aime pas la doctrine du châtiment éternel. Je vais l'emporter sur Dieu. » Les attaques de la sagesse charnelle. Je ne peux pas concevoir ceci. Très dangereux. Nous plions complètement le genou devant la parole de Dieu. Nous nous positionnons en défenseur de la parole, en l'élevant et en la laissant se défendre elle-même. Et c'est ce que nous proposons de faire à partir de dimanche prochain. Nous irons au-delà de tout ceci. Les attaques négatives sur lesquelles nous mettons en quelque sorte des questions en perspective. Et nous verrons également comment la Bible exalte sa propre autorité. Voilà qui est assez pour ce soir. Prions. Père, nous te disons merci pour la parole. Que pouvons-nous dire? Et nous l'étudions depuis des années et des années et des années. Et, comme toujours, elle se justifie elle-même. Elle est vivante, puissante, pure, vraie et pénétrante. Elle détruit ceux qui la rejettent. Elle édifie ceux qui la reçoivent. Elle est la parole vivante. Nous te remercions pour ta parole. Nous mettons tous nos espoirs en elle. Notre foi tout entière repose sur sa véracité. Puissions-nous ne pas nous contenter d'être des défenseurs, mais également d'être des proclamateurs de cette glorieuse vérité à laquelle nous obéissons. Nous te remercions pour le trésor qu'elle représente. Merci de ce qu'il s'agit d'un trésor inépuisable, des richesses infinies et toujours disponibles pour ceux qui ouvrent ces pages dans la prière et l'étudient soigneusement. Nous te remercions pour cela. Nous prions en ce jour où tant de personnes s'en prennent à ta parole, qu'il y ait un grand mouvement contraire pour l'exalter. Tu as magnifié ta parole, psaume 138, verset 2, dit dans la version de la Nouvelle Bible Second, au-delà de tout renom. Et nous faisons de même. Nous sommes reconnaissants pour cela, car en elle, nous savons tout ce que tu veux que nous sachions, tout ce que nous avons besoin de savoir pour pouvoir te donner la gloire. Pour tout cela, nous t'offrons notre louange, au nom de Jésus-Christ. Amen.
Pour de plus amples renseignements, ainsi qu'un accès gratuit aux leçons de John, connectez-vous à Une Grâce pour vous sur le site gty.org. Le site vous offre la possibilité d'acheter la Bible d'études de MacArthur, qui est la principale ressource financière du ministère de John. Le site vend toutes les traductions disponibles. Par contre, il n'est pas possible de la fournir gratuitement pour chaque pays où ce message est entendu. John MacArthur et Une Grâce pour vous sont dépositaires du copyright pour tous ces messages. Nos conditions en ce qui concerne la duplication des messages sont indiquées sur le site gty.org.